Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early. Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Hey friends, it's Demi Lee Tebow. My new devotional, Knowing Who You Are Because of Who God is available right now. Start the journey to an unbreakable confidence today and get your copy wherever you buy books.
Section 59 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stael. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 6. Kant. Kant a vécu jusque dans un âge très avancé et jamais il n'est sorti de Königsberg. C'est là qu'au milieu des glaces du Nord, il a passé sa vie entière à méditer sur les lois de l'intelligence humaine. Une ardeur infatigable pour l'étude lui a fait acquérir des connaissances sans nombre. Les sciences, les langues, la littérature, tout lui était familier, et sans rechercher la gloire, dont il n'a joui que très tard, n'entendant que dans sa vieillesse le bruit de sa renommée, il s'est contenté du plaisir silencieux de la réflexion. Solitaire, il contemplait son âme avec recueillement. L'examen de la pensée lui prêtait de nouvelles forces à l'appui de la vertu, et quoiqu'il ne se mêlât jamais avec les passions ardentes des hommes, il a su forger des armes pour ceux qui seraient appelés à les combattre. On n'a guère d'exemple que chez les Grecs d'une vie aussi rigoureusement philosophique. Et déjà cette vie répond de la bonne foi de l'écrivain. À cette bonne foi la plus pure, il faut encore ajouter un esprit fin et juste qui servait de censeur au génie quand il se laissait emporter trop loin. C'en est assez, ce me semble, pour qu'on doive juger au moins impartialement les travaux persévérants d'un tel homme. Kant publia d'abord divers écrits sur les sciences physiques, et il montra dans ce genre d'études une telle sagacité que c'est lui qui prévit le premier l'existence de la planète Uranus. Herschel lui-même, après l'avoir découverte, a reconnu que c'était Kant qui l'avait annoncé. Son traité sur la nature de l'entendement humain, intitulé « Critique de la raison pure », parut il y a près de 30 ans, et cet ouvrage fut quelque temps inconnu. Mais lorsque, enfin, on découvrit les trésors d'idées qu'il renferme, il produisit une telle sensation en Allemagne que presque tout ce qui s'est fait depuis, en littérature comme en philosophie, vient de l'impulsion donnée par cet ouvrage. À ce traité sur l'entendement humain succédèrent la critique de la raison pratique, qui portait sur la morale, et la critique du jugement, qui avait la nature du beau pour objet. La même théorie sert de base à ces trois traités, qui embrassent les lois de l'intelligence, les principes de la vertu et la contemplation des beautés de la nature et des arts. Je vais tâcher de donner un aperçu des idées principales que renferme cette doctrine. Quelque soin que je prenne pour l'exposer avec clarté, je ne me dissimule point qu'il faudra toujours de l'attention pour la comprendre. Un prince qui apprenait les mathématiques s'impatientait du travail qu'exigeait cette étude. « Il faut nécessairement, lui dit celui qui les enseignait, que votre Altesse se donne la peine d'étudier pour savoir, car il n'y a point de route royale en mathématiques. » Le public français, qui a tant de raisons de se croire un prince, permettra bien qu'on lui dise qu'il n'y a point de route royale en métaphysique, et que, pour arriver à la conception d'une théorie quelconque, il faut passer par les intermédiaires qui ont conduit l'auteur lui-même au résultat qu'il présente. La philosophie matérialiste livrait l'entendement humain à l'empire des objets extérieurs, la morale à l'intérêt personnel, et réduisait le beau à n'être que l'agréable. Kant voulut rétablir les vérités primitives et l'activité spontanée dans l'âme, la conscience dans la morale et l'idéal dans les arts. Examinons maintenant de quelle manière il a atteint ces différents buts. À l'époque où parut la critique de la raison pure, il n'existait que deux systèmes sur l'entendement humain parmi les penseurs. L'un, celui de Locke, attribuait toutes nos idées à nos sensations. L'autre, celui de Descartes et de Leibniz, s'attachait à démontrer la spiritualité et l'activité de l'âme, le libre arbitre, enfin toute la doctrine idéaliste. Mais ces deux philosophes appuyaient leur doctrine sur des preuves purement spéculatives. J'ai exposé dans le chapitre précédent les inconvénients qui résultent de ces efforts d'abstraction, qui arrêtent pour ainsi dire notre sang dans nos veines, afin que les facultés intellectuelles règnent seules en nous. La méthode algébrique, appliquée à des objets qu'on ne peut saisir par le raisonnement seul, ne laisse aucune trace durable dans l'esprit. Pendant qu'on lit ses écrits sur les hautes conceptions philosophiques, on croit les comprendre, on croit les croire. Mais les arguments qui ont paru les plus convaincants échappent bientôt au souvenir. L'homme, lassé de ses efforts, se borne-t-il à ne rien connaître que par les sens? Tout sera douleur pour son âme. Aura-t-il l'idée de l'immortalité quand les avant-coureurs de la destruction sont si profondément gravés sur le visage des mortels et que la nature vivante tombe sans cesse en poussière? Lorsque tous les sens parlent de mourir, quel faible espoir nous entretiendrait de renaître? Si l'on ne consultait que les sensations, quelle idée se ferait-on de la bonté suprême? Tant de douleurs se disputent notre vie, tant d'objets hideux déshonorent la nature, que la créature infortunée maudit 100 fois l'existence avant qu'une dernière convulsion la lui ravisse. L'homme, au contraire, rejette-t-il le témoignage des sens? Comment se guidera-t-il sur cette terre? Et s'il n'en croyait que, cependant, quel enthousiasme, quelle morale, quelle religion résisteraient aux assauts réitérés que leur livreraient tour à tour la douleur et le plaisir? La réflexion errait dans cette incertitude immense lorsque Kant essaya de tracer les limites des deux empires, des sens et de l'âme, de la nature extérieure et de la nature intellectuelle. La puissance de méditation et la sagesse avec laquelle il marqua ses limites n'avaient peut-être point eu d'exemple avant lui. Il ne s'égara point dans de nouveaux systèmes sur la création de l'univers. Il reconnut les bornes que les mystères éternels imposent à l'esprit humain. Et ce qui sera nouveau peut-être pour ceux qui n'ont fait qu'entendre parler de Kant, c'est qu'il n'y a point eu de philosophe plus opposé sous plusieurs rapports à la métaphysique. Il ne s'est rendu si profond dans cette science que pour employer les moyens mêmes qu'elle donne à démontrer son insuffisance. On dirait que, nouveau Curtius, il s'est jeté dans le gouffre de l'abstraction pour le combler. Locke avait combattu victorieusement la doctrine des idées innées dans l'homme, parce qu'il a toujours représenté les idées comme faisant partie des connaissances expérimentales. L'examen de la raison pure, c'est-à-dire des facultés primitives dont l'intelligence se compose, ne fixa pas son attention. Leibniz, comme nous l'avons dit plus haut, prononça cet axiome sublime. Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne par les sens, si ce n'est l'intelligence elle-même. Kant a reconnu, de même que Locke, qu'il n'y a point d'idées innées, mais il s'est proposé de pénétrer dans le sens de l'axiome de Leibniz, en examinant quelles sont les lois et les sentiments qui constituent l'essence de l'âme humaine, indépendamment de toute expérience. La critique de la raison pure s'attache à montrer en quoi consistent ces lois et quels sont les objets sur lesquels elles peuvent s'exercer. Le scepticisme, auquel le matérialisme conduit presque toujours, était porté si loin que Hume avait fini par ébranler la base du raisonnement même en cherchant des arguments contre l'axiome qu'il n'y a point d'effet sans cause. Et telle est l'instabilité de la nature humaine quand on ne place pas au centre de l'âme le principe de toute conviction que l'incrédulité, qui commence par attaquer l'existence du monde moral, arrive à défaire aussi le monde matériel, dont elle s'était d'abord servie pour renverser l'autre. Kant voulait savoir si la certitude absolue était possible à l'esprit humain. Il ne la trouva que dans les notions nécessaires, c'est-à-dire dans toutes les lois de notre entendement, dont la nature est telle que nous ne puissions rien concevoir autrement que ces lois ne nous le représentent. Au premier rang des formes impératives de notre esprit sont l'espace et le temps. Kant démontre que toutes nos perceptions sont soumises à ces deux formes. Il en conclut qu'elles sont en nous, et non pas dans les objets, et qu'à cet égard, c'est notre entendement qui donne des lois à la nature extérieure, au lieu d'en recevoir d'elle. La géométrie qui mesure l'espace et l'arithmétique qui divise le temps sont des sciences d'une évidence complète, parce qu'elles reposent sur les notions nécessaires de notre esprit. Les vérités acquises par l'expérience n'emportent jamais avec elles cette certitude absolue. Quand on dit « le soleil se lève chaque jour, tous les hommes sont mortels, etc. », l'imagination pourrait se figurer une exception à ces vérités, que l'expérience seule fait considérer comme indubitable. Mais l'imagination elle-même ne saurait rien supposer hors de l'espace et du temps. Et l'on ne peut considérer comme un résultat de l'habitude, c'est-à-dire de la répétition constante des mêmes phénomènes, ces formes de notre pensée que nous imposons aux choses. Les sensations peuvent être douteuses, mais le prisme à travers lequel nous les recevons est immuable. À cette intuition primitive de l'espace et du temps, il faut ajouter, ou plutôt donner pour base, les principes du raisonnement, sans lesquels nous ne pouvons rien comprendre, et qui sont les lois de notre intelligence. La liaison des causes et des effets, l'unité, la pluralité, la totalité, la possibilité, la réalité, la nécessité, etc. Note. Kant donne le nom de catégorie aux diverses notions nécessaires de l'entendement dont il présente le tableau. Fin de note. Kant les considère également comme des notions nécessaires, et il n'élève au rang des sciences que celles qui sont fondées immédiatement sur ces notions, parce que c'est dans celles-là seulement que la certitude peut exister. Les formes du raisonnement n'ont de résultat que quand on les applique au jugement des objets extérieurs, et dans cette application, elles sont sujettes à l'erreur, mais elles n'en sont pas moins nécessaires en elles-mêmes. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous en départir dans aucune de nos pensées. Il nous est impossible de nous rien figurer hors des relations de causes et d'effets, de possibilités, de quantités, etc. Et ces notions sont aussi inhérentes à notre conception que l'espace et le temps. Nous n'apercevons rien qu'à travers les lois immuables de notre manière de raisonner. Donc, ces lois aussi sont en nous-mêmes. Et non au dehors de nous. On appelle, dans la philosophie allemande, idée subjective celles qui naissent de la nature de notre intelligence et de ses facultés, et idée objective toutes celles qui sont excitées par les sensations. Quelle que soit la dénomination qu'on adopte à cet égard, il me semble que l'examen de notre esprit s'accorde avec la pensée dominante de Kant, c'est-à-dire la distinction qu'il établit entre les formes de notre entendement et les objets que nous connaissons d'après ces formes. Et soit qu'il s'en tienne aux conceptions abstraites, soit qu'il en appelle, dans la religion et dans la morale, aux sentiments qu'il considère aussi comme indépendants de l'expérience, rien n'est plus lumineux que la ligne de démarcation qu'il trace entre ce qui nous vient par les sensations et ce qui tient à l'action spontanée de notre âme. Quelques mots de la doctrine de Kant ayant été mal interprétés, on a prétendu qu'il croyait aux connaissances a priori, c'est-à-dire à celles qui seraient gravées dans notre esprit avant que nous les eussions apprises. D'autres philosophes allemands, plus rapprochés du système de Platon, ont en effet pensé que le type du monde était dans l'esprit humain, et que l'homme ne pourrait concevoir l'univers s'il n'en avait pas l'image innée en lui-même. Mais il n'est pas question de cette doctrine dans Kant. Il réduit les sciences intellectuelles à trois, la logique, la métaphysique et les mathématiques. La logique n'enseigne rien par elle-même, mais comme elle repose sur les lois de notre entendement, elle est incontestable dans ses principes, abstraitement considérés. Cette science ne peut conduire à la vérité que dans son application aux idées et aux choses. Ses principes sont innés, son application est expérimentale. Quant à la métaphysique, Kant nie son existence, puisqu'il prétend que le raisonnement ne peut avoir lieu que dans la sphère de l'expérience. les mathématiques seules lui paraissent dépendre immédiatement de la notion de l'espace et du temps, c'est-à-dire des lois de notre entendement antérieures à l'expérience. Il cherche à prouver que les mathématiques ne sont point une simple analyse, mais une science synthétique, positive, créatrice et certaine par elle-même, sans qu'on ait besoin de recourir à l'expérience pour s'assurer de sa vérité. On peut étudier dans le livre de Kant les arguments sur lesquels il appuie cette manière de voir. Mais au moins est-il vrai qu'il n'y a point d'homme plus opposé à ce qu'on appelle la philosophie des rêveurs, et qu'il aurait plutôt du penchant pour une façon de penser sèche et didactique, quoique sa doctrine ait pour objet de relever l'espèce humaine dégradée par la philosophie matérialiste. Loin de rejeter l'expérience, Kant considère l'œuvre de la vie comme n'étant autre chose que l'action de nos facultés innées sur les connaissances qui nous viennent du dehors. Il croit que l'expérience ne serait qu'un chaos sans les lois de l'entendement, mais que les lois de l'entendement n'ont pour objet que les éléments donnés par l'expérience. Il s'ensuit qu'au-delà de ces limites, la métaphysique elle-même ne peut rien nous apprendre, et que c'est au sentiment que l'on doit attribuer la prescience et la conviction de tout ce qui sort du monde visible. Lorsqu'on veut se servir du raisonnement seul pour établir les vérités religieuses, c'est un instrument pliable en tous sens, qui peut également les défendre et les attaquer, parce qu'on ne saurait à cet égard trouver aucun point d'appui dans l'expérience. Kant place sur deux lignes parallèles les arguments pour et contre la liberté de l'homme, l'immortalité de l'âme, la durée passagère ou éternelle du monde. Et c'est au sentiment qu'il en appelle pour faire pencher la balance, car les preuves métaphysiques lui paraissent en égale force de part et d'autre. Note. Ces arguments opposés sur les grandes questions métaphysiques sont appelés antinomies dans le livre de Kant. Fin de note. Peut-être a-t-il eu tort de pousser jusque-là le scepticisme du raisonnement. Mais c'est pour anéantir plus sûrement ce scepticisme en écartant de certaines questions les discussions abstraites qui l'ont fait naître. Il serait injuste de soupçonner la piété sincère de Kant, parce qu'il a soutenu qu'il y avait parité entre les raisonnements pour et contre dans les grandes questions de la métaphysique transcendante. Il me semble, au contraire, qu'il y a de la candeur dans cet aveu. Ainsi, petit nombre d'esprits sont en état de comprendre de tels raisonnements, et ceux qui en sont capables ont une telle tendance à se combattre les uns les autres que c'est rendre un grand service à la foi religieuse que de bannir la métaphysique de toutes les questions qui tiennent à l'existence de Dieu, au libre arbitre, à l'origine du bien et du mal. Quelques personnes respectables ont dit qu'il ne faut négliger aucune arme, et que les arguments métaphysiques aussi doivent être employés pour persuader ceux sur qui ils ont de l'empire. Mais ces arguments conduisent à la discussion, et la discussion au doute sur quelque sujet que ce soit. Les belles époques de l'espèce humaine, dans tous les temps, ont été celles où des vérités d'un certain ordre n'étaient jamais contestées, ni par des écrits, ni par des discours. Les passions pouvaient entraîner à des actes coupables, mais nul ne révoquait en doute la religion même à laquelle il n'obéissait pas. Les sophismes de tout genre, abus d'une certaine philosophie, ont détruit dans divers pays et dans différents siècles cette noble fermeté de croyance, source du dévouement héroïque. N'est-ce donc pas une belle idée à un philosophe que d'interdire à la science même qu'il professe l'entrée du sanctuaire et d'employer toute la force de l'abstraction à prouver qu'il y a des régions dont elle doit être bannie? Des despotes et des fanatiques ont essayé de défendre à la raison humaine l'examen de certains sujets, et toujours la raison s'est affranchie de ces injustes entraves. Mais les bornes qu'elle s'impose à elle-même, loin de la servir, lui donnent une nouvelle force, celle qui résulte toujours de l'autorité des lois librement consenties par ceux qui s'y mettent. Un sourd muet, avant d'avoir été élevé par l'abbé Sicard, pourrait avoir une certitude intime de l'existence de la divinité. Beaucoup d'hommes sont aussi loin des penseurs profonds que les sourds muets le sont des autres hommes, et cependant ils n'en sont pas moins susceptibles d'éprouver, pour ainsi dire, en eux-mêmes, les vérités primitives, parce que ces vérités sont du ressort du sentiment. Les médecins, dans l'étude physique de l'homme, reconnaissent le principe qui l'anime, et cependant nul ne sait ce que c'est que la vie. Et si l'on se mettait à raisonner, on pourrait très bien, comme l'ont fait quelques philosophes grecs, prouver aux hommes qu'ils ne vivent pas. Il en est de même de Dieu, de la conscience, du libre arbitre. Il faut y croire, parce qu'on les sent. Tout argument sera toujours d'un ordre inférieur à ce fait. L'anatomie ne peut s'exercer sur un corps vivant sans le détruire. L'analyse, en s'essayant sur des vérités indivisibles, les dénature par cela même qu'elles portent atteinte à leur unité. Il faut partager notre âme en deux pour qu'une moitié de nous-mêmes observe l'autre. De quelque manière que ce partage ait lieu, il ôte à notre être l'identité sublime sans laquelle nous n'avons pas la force nécessaire pour croire ce que la conscience seule peut affirmer. Réunissez un grand nombre d'hommes au théâtre ou dans la place publique et dites-leur quelques vérités de raisonnement, quelque idée générale que ce puisse être. À l'instant, vous verrez se manifester presque autant d'opinions diverses qu'il y aura d'individus rassemblés. Mais si quelques traits de grandeur d'âme sont racontés, si quelques accents de générosité se font entendre, aussitôt des transports unanimes vous apprendront que vous avez touché à cet instinct de l'âme, aussi vif, aussi puissant dans notre être que l'instinct conservateur de l'existence. En rapportant au sentiment, qui n'admet point le doute, la connaissance des vérités transcendantes, en cherchant à prouver que le raisonnement n'est valable que dans la sphère des sensations, Kant est bien loin de considérer cette puissance du sentiment comme une illusion. Il lui assigne au contraire le premier rang de la nature humaine. Il fait de la conscience le principe inné de notre existence morale. Et le sentiment du juste et de l'injuste est, selon lui, la loi primitive du cœur, comme l'espace et le temps, celle de l'intelligence. L'homme, à l'aide du raisonnement, n'a-t-il pas nié le libre arbitre ? Et cependant, il en est si convaincu qu'il se surprend à éprouver de l'estime ou du mépris pour les animaux eux-mêmes, tant il croit au choix spontané du bien et du mal dans tous les êtres. C'est le sentiment qui nous donne la certitude de notre liberté. Et cette liberté est le fondement de la doctrine du devoir. Car si l'homme est libre, il doit se créer à lui-même des motifs tout-puissants qui combattent l'action des objets extérieurs et dégagent la volonté de l'égoïsme. Le devoir est la preuve et la garantie de l'indépendance métaphysique de l'homme. Nous examinerons dans les chapitres suivants les arguments de Kant contre la morale fondée sur l'intérêt personnel et la sublime théorie qu'il met à la place de ce sophisme hypocrite ou de cette doctrine perverse. Il peut exister deux manières de voir sur le premier ouvrage de Kant, la critique de la raison pure. Précisément parce qu'il a reconnu lui-même le raisonnement pour insuffisant et pour contradictoire, il devait s'attendre à ce qu'on s'en servît contre lui. Mais il me semble impossible de ne pas lire avec respect sa critique de la raison pratique et les différents écrits qu'il a composés sur la morale. Non seulement les principes de la morale de Kant sont austères et purs, comme on devait les attendre de l'inflexibilité philosophique, mais il rallie constamment l'évidence du cœur à celle de l'entendement et se complaît singulièrement à faire servir sa théorie abstraite sur la nature de l'intelligence à l'appui des sentiments les plus simples et les plus forts. Une conscience acquise par les sensations pourrait être étouffée par elle, et l'on dégrade la dignité du devoir en le faisant dépendre des objets extérieurs. Kant revient donc sans cesse à montrer que le sentiment profond de cette dignité est la condition nécessaire de notre être moral, la loi par laquelle il existe. L'empire des sensations et les mauvaises actions qu'elles font commettre ne peuvent pas plus détruire en nous la notion du bien ou du mal que celle de l'espace et du temps n'est altérée par les erreurs d'application que nous en pouvons faire. Il y a toujours, dans quelque situation qu'on soit, une force de réaction contre les circonstances qui naît du fond de l'âme. Et l'on sent bien que ni les lois de l'entendement, ni la liberté morale, ni la conscience ne viennent en nous de l'expérience. dans son traité sur le sublime et le beau, intitulé « Critique du jugement », Kant applique au plaisir de l'imagination le même système dont il a tiré des développements si féconds dans la sphère de l'intelligence et du sentiment. Ou plutôt, c'est la même âme qu'il examine et qui se manifeste dans les sciences, la morale et les beaux-arts. Kant soutient qu'il y a dans la poésie et dans les arts dignes comme elle de peindre les sentiments par des images, deux genres de beauté, l'un qui peut se rapporter au temps et à cette vie, l'autre à l'éternel et à l'infini. Et qu'on ne dise pas que l'infini et l'éternel sont inintelligibles. C'est le fini et le passager qu'on serait souvent tenté de prendre pour un rêve. Car la pensée ne peut voir de terme à rien, et l'être ne saurait concevoir le néant. On ne peut approfondir les sciences exactes elles-mêmes sans y rencontrer l'infini et l'éternel. Et les choses les plus positives appartiennent autant sous de certains rapports à cet infini et à cet éternel que le sentiment et l'imagination. De cette application du sentiment de l'infini aux beaux-arts doit naître l'idéal, c'est-à-dire le beau, considéré non pas comme la réunion et l'imitation de ce qu'il y a de mieux dans la nature, mais comme l'image réalisée de ce que notre âme se représente. Les philosophes matérialistes jugent le beau sous le rapport de l'impression agréable qu'il cause et le placent ainsi dans l'empire des sensations. Les philosophes spiritualistes, qui rapportent tout à la raison, voient dans le beau le parfait et lui trouvent quelque analogie avec l'utile et le bon qui sont les premiers degrés du parfait. Kant a rejeté l'une et l'autre explication. Le beau, considéré seulement comme l'agréable, serait renfermé dans la sphère des sensations et soumis par conséquent à la différence des goûts. Il ne pourrait mériter cet assentiment universel qui est le véritable caractère de la beauté. Le beau, défini comme la perfection, exigerait une sorte de jugement pareil à celui qui fonde l'estime. L'enthousiasme que le beau doit inspirer ne tient ni aux sensations ni aux jugements. C'est une disposition innée, comme le sentiment du devoir et les notions nécessaires de l'entendement. Et nous reconnaissons la beauté quand nous la voyons parce qu'elle est l'image extérieure de l'idéal, dont le type est dans notre intelligence. La diversité des goûts peut s'appliquer à ce qui est agréable, car les sensations sont la source de ce genre de plaisir. Mais tous les hommes doivent admirer ce qui est beau, soit dans les arts, soit dans la nature, parce qu'ils ont dans leur âme des sentiments d'origine céleste que le beau réveille et dont elle les fait jouir. Kant passe de la théorie du beau à celle du sublime, et cette seconde partie de sa critique du jugement est plus remarquable encore que la première. Il fait consister le sublime dans la liberté morale aux prises avec le destin ou avec la nature. La puissance sans bornes nous épouvante, la grandeur nous accable. Toutefois, nous échappons par la vigueur de la volonté au sentiment de notre faiblesse physique. Le pouvoir du destin et l'immensité de la nature sont dans une opposition infinie avec la misérable dépendance de la créature sur la terre. Mais une étincelle du feu sacré dans notre sein triomphe de l'univers, puisqu'il suffit de cette étincelle pour résister à ce que toutes les forces du monde pourraient exiger de nous. Le premier effet du sublime est d'accabler l'homme, et le second de le relever. Quand nous contemplons l'orage qui soulève les flots de la mer et semble menacer et la terre et le ciel, l'effroi s'empare d'abord de nous à cet aspect, bien qu'aucun danger personnel ne puisse alors nous atteindre. Mais quand les nuages s'amoncellent, quand toute la fureur de la nature se manifeste, l'homme se sent une énergie intérieure qui peut l'affranchir de toutes les craintes, par la volonté ou par la résignation, par l'exercice ou par l'abdication de sa liberté morale, et cette conscience de lui-même le ranime et l'encourage. Quand on nous raconte une action généreuse, quand on nous apprend que des hommes ont supporté des douleurs inouïes pour rester fidèles à leur opinion, jusque dans ses moindres nuances, d'abord, l'image des supplices qu'ils ont souffert confond notre pensée. Mais, par degrés, nous reprenons des forces et la sympathie que nous nous sentons avec la grandeur d'âme nous fait espérer que nous aussi nous saurions triompher des misérables sensations de cette vie pour rester vrais, nobles et fiers jusqu'à notre dernier jour. Au reste, personne ne saurait définir ce qui est, pour ainsi dire, au sommet de notre existence. Nous sommes trop élevés à l'égard de nous-mêmes pour nous comprendre, dit saint Augustin. Il serait bien pauvre en imagination celui qui croirait pouvoir épuiser la contemplation de la plus simple fleur. Comment donc parviendrait-on à connaître tout ce que renferme l'idée du sublime ? Je ne me flatte assurément pas d'avoir pu rendre compte, en quelques pages, d'un système qui occupe depuis 20 ans toutes les têtes pensantes de l'Allemagne. Mais j'espère en avoir dit assez pour indiquer l'esprit général de la philosophie de Kant, et pour pouvoir expliquer, dans les chapitres suivants, l'influence qu'elle a exercée sur la littérature, les sciences et la morale. Pour bien concilier la philosophie expérimentale avec la philosophie idéaliste, Kant n'a point soumis l'une à l'autre, mais il a su donner à chacune des deux séparément un nouveau degré de force. L'Allemagne était menacée de cette doctrine aride qui considérait tout enthousiasme comme une erreur et rangeait au nombre des préjugés les sentiments consolateurs de l'existence. Ce fut une satisfaction vive pour des hommes à la fois si philosophes et si poètes, si capables d'études et d'exaltation, de voir toutes les belles affections de l'âme défendues avec la rigueur des raisonnements les plus abstraits. La force de l'esprit ne peut jamais être longtemps négative, c'est-à-dire consister principalement dans ce qu'on ne croit pas, dans ce qu'on ne comprend pas, dans ce qu'on dédaigne. Il faut une philosophie de croyance, d'enthousiasme, une philosophie qui confirme par la raison ce que le sentiment nous révèle. Les adversaires de Kant l'ont accusé de n'avoir fait que répéter les arguments des anciens idéalistes. Ils ont prétendu que la doctrine du philosophe allemand n'était qu'un ancien système dans un langage nouveau. Ce reproche n'est pas fondé. Il n'y a non seulement des idées nouvelles, mais un caractère particulier dans la doctrine de Kant. Elle se ressent de la philosophie du XVIIIe siècle, quoiqu'elle soit destinée à la réfuter parce qu'il est dans la nature de l'homme d'entrer toujours en composition avec l'esprit de son temps, lors même qu'il veut le combattre. La philosophie de Platon est plus poétique que celle de Kant, la philosophie de Malebranche plus religieuse. Mais le grand mérite du philosophe allemand a été de relever la dignité morale, en donnant pour base à tout ce qu'il y a de plus beau dans le cœur une théorie fortement raisonnée. L'opposition qu'on a voulu mettre entre la raison et le sentiment conduit nécessairement la raison à l'égoïsme et le sentiment à la folie. Mais Kant, qui semblait appelé à conclure toutes les grandes alliances intellectuelles, a fait de l'âme un seul foyer où toutes les facultés sont d'accord entre elles. La partie polémique des ouvrages de Kant, celle dans laquelle il attaque la philosophie matérialiste, serait à elle seule un chef-d'œuvre. Cette philosophie a jeté dans les esprits de si profondes racines, il en est résulté tant d'irréligion et d'égoïsme, qu'on devrait encore regarder comme les bienfaiteurs de leur pays ceux qui n'auraient fait que combattre ce système et raviver les pensées de Platon, de Descartes et de Leibniz. Mais la philosophie de la nouvelle école allemande contient une foule d'idées qui lui sont propres. Elle est fondée sur d'immenses connaissances scientifiques qui se sont accrues chaque jour et sur une méthode de raisonnement singulièrement abstraite et logique. Car, bien que Kant blâme l'emploi de ses raisonnements dans l'examen des vérités hors du cercle de l'expérience, il montre dans ses écrits une force de tête en métaphysique qui le place sous ce rapport au premier rang des penseurs. On ne saurait nier que le style de Kant, dans sa critique de la raison pure, ne mérite presque tous les reproches que ses adversaires lui ont faits. Il s'est servi d'une terminologie très difficile à comprendre et du néologisme le plus fatigant. Il vivait seul avec ses pensées et se persuadait qu'il fallait des mots nouveaux pour des idées nouvelles. Et cependant, il y a des paroles pour tout. Dans les objets les plus clairs par eux-mêmes, Kant prend souvent pour guide une métaphysique fort obscure et ce n'est que dans les ténèbres de la pensée qu'il porte un flambeau lumineux. Il rappelle les Israélites qui avaient pour guide une colonne de feu pendant la nuit et une colonne nébuleuse pendant le jour. Personne en France ne se serait donné la peine d'étudier des ouvrages aussi hérissés de difficultés que ceux de Kant. Mais il avait affaire à des lecteurs patients et persévérants. Ce n'était pas sans doute une raison pour en abuser. Peut-être, toutefois, n'aurait-il pas creusé si profondément dans la science de l'entendement humain s'il avait mis plus d'importance aux expressions dont il se servait pour l'expliquer. Les philosophes anciens ont toujours divisé leur doctrine en deux parties distinctes, celle qu'ils réservaient pour les initiés et celle qu'ils professaient en public. La manière d'écrire de Kant est tout à fait différente lorsqu'il s'agit de sa théorie ou de l'application de cette théorie. Dans ses traités de métaphysique, il prend les mots comme des chiffres et leur donne la valeur qu'il veut, sans s'embarrasser de celles qu'ils tiennent de l'usage. C'est, ce me semble, une grande erreur, car l'attention du lecteur s'épuise à comprendre le langage avant d'arriver aux idées, et le connu ne sert jamais d'échelon pour parvenir à l'inconnu. Il faut néanmoins rendre à Kant la justice qu'il mérite même comme écrivain, quand il renonce à son langage scientifique. En parlant des arts, et surtout de la morale, son style est presque toujours parfaitement clair, énergique et simple. Combien sa doctrine paraît alors admirable, comme il exprime le sentiment du beau et l'amour du devoir. Avec quelle force il les sépare tous les deux de tout calcul d'intérêt ou d'utilité. Comme il ennoblit les actions par leur source et non par leur succès. Enfin, quelle grandeur morale ne sait-il pas donner à l'homme, soit qu'il l'examine en lui-même, soit qu'il le considère dans ses rapports extérieurs. L'homme, cet exilé du ciel, ce prisonnier de la terre, si grand comme exilé, si misérable comme captif. On pourrait extraire des écrits de Kant une foule d'idées brillantes sur tous les sujets. Et peut-être même est-ce de cette doctrine seule qu'il est possible de tirer maintenant des aperçus ingénieux et nouveaux. Car le point de vue matérialiste, en toute chose, n'offre plus rien d'intéressant ni d'original. Le piquant des plaisanteries contre ce qui est sérieux, noble et divin est usé, et l'on ne rendra désormais quelque jeunesse à la race humaine qu'en retournant à la religion par la philosophie et au sentiment par la raison.
Fin de la section 59. Section 60 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 7. Des philosophes les plus célèbres de l'Allemagne, avant et après Kant. L'esprit philosophique, par sa nature, ne saurait être généralement répandu dans aucun pays. Cependant, il y a en Allemagne une telle tendance vers la réflexion que la nation allemande peut être considérée comme la nation métaphysique par excellence. Elle renferme tant d'hommes en état de comprendre les questions les plus abstraites que le public même y prend intérêt aux arguments employés dans ce genre de discussion. Chaque homme d'esprit a sa manière de voir à lui sur les questions philosophiques. Les écrivains du second et du troisième ordre, en Allemagne, ont encore des connaissances assez approfondies pour être chefs ailleurs. Les rivaux se haïssent dans ce pays comme dans tout autre, mais aucun n'oserait se présenter au combat sans avoir prouvé par des études solides l'amour sincère de la science dont il s'occupe. Il ne suffit pas d'aimer le succès. Il faut le mériter pour être admis seulement à concourir. Les Allemands, si indulgents, quand il s'agit de ce qui peut manquer à la forme d'un ouvrage, sont impitoyables sur sa valeur réelle, et quand ils aperçoivent quelque chose de superficiel dans l'esprit, dans l'âme ou dans le savoir d'un écrivain, ils tâchent d'emprunter la plaisanterie française elle-même pour tourner en ridicule ce qui est frivole. Je me suis proposé de donner dans ce chapitre un aperçu rapide des principales opinions des philosophes célèbres avant et après Kant. On ne pourrait pas bien juger la marche qu'ont suivie ses successeurs si l'on ne retournait pas en arrière pour se représenter l'état des esprits au moment où la doctrine kantienne se répandit en Allemagne. Elle combattait à la fois le système de Locke comme tendant au matérialisme et l'école de Leibniz comme ayant tout réduit à l'abstraction. Les pensées de Leibniz étaient hautes, mais ses disciples, Wolff à leur tête, les commentèrent avec des formes logiques et métaphysiques. Leibniz avait dit que les notions qui nous viennent par les sens sont confuses et que celles qui appartiennent aux perceptions immédiates de l'âme sont les seules claires. Sans doute, il voulait indiquer par là que les vérités invisibles sont plus certaines et plus en harmonie avec notre être moral que tout ce que nous apprenons par le témoignage des sens. Wolff et ses disciples en tirèrent pour conséquence qu'il fallait réduire en idées abstraites tout ce qui peut occuper notre esprit. Kant reporta l'intérêt et la chaleur dans cet idéalisme sans vie. Il fit à l'expérience une juste part, comme aux facultés innées, et l'art avec lequel il appliqua sa théorie à tout ce qui intéresse les hommes, à la morale, à la poésie et aux beaux-arts, en étendit l'influence. Trois hommes principaux, Lessing, Hemsterhuis et Jacobi, précédèrent Kant dans la carrière philosophique. Ils n'avaient point une école, puisqu'ils ne fondaient pas un système, mais ils commencèrent l'attaque contre la doctrine des matérialistes. Lessing est celui des trois dont les opinions à cet égard étaient les moins décidées. Toutefois, il avait trop d'étendu dans l'esprit pour se renfermer dans le cercle borné qu'on peut se tracer si facilement, en renonçant aux vérités les plus hautes. La toute-puissante polémique de Lessing réveillait le doute sur les questions les plus importantes et portait à faire de nouvelles recherches en tout genre. Lessing lui-même ne peut être considéré ni comme matérialiste ni comme idéaliste, mais le besoin d'examiner et d'étudier pour connaître était le mobile de son existence. Si le Tout-Puissant, disait-il, tenait dans une main la vérité et dans l'autre la recherche de la vérité, c'est la recherche que je lui demanderais par préférence. Lessing n'était point orthodoxe en religion. Le christianisme ne lui était point nécessaire comme sentiment, et toutefois il savait l'admirer philosophiquement. Il comprenait ses rapports avec le cœur humain, et c'est toujours d'un point de vue universel qu'il considère toutes les opinions. Rien d'intolérant, rien d'exclusif ne se trouve dans ses écrits. Quand on se place au centre des idées, on a toujours de la bonne foi, de la profondeur et de l'étendue. Ce qui est injuste, vaniteux et borné, vient du besoin de tout rapporter à quelques aperçus partiels qu'on s'est appropriés et dont on se fait un objet d'amour-propre. Lessing exprime, avec un style tranchant et positif, des opinions pleines de chaleur. Hemsterhuis, philosophe hollandais, fut le premier qui, au milieu du XVIIIe siècle, indiqua dans ses écrits la plupart des idées généreuses sur lesquelles la nouvelle école allemande est fondée. Ses ouvrages sont aussi très remarquables par le contraste qui existe entre le caractère de son style et les pensées qu'il énonce. Lessing est enthousiaste avec des formes ironiques, Hemsterhuis avec un langage mathématicien. On ne trouve guère que parmi les nations germaniques le phénomène de ces écrivains qui consacrent la métaphysique la plus abstraite à la défense des systèmes les plus exaltés et qui cachent une imagination vive sous une logique austère. Les hommes qui se mettent toujours en garde contre l'imagination qu'ils n'ont pas se confient plus volontiers aux écrivains qui bannissent des discussions philosophiques le talent et la sensibilité. Comme s'il n'était pas au moins aussi facile de déraisonner sur de tels sujets avec des syllogismes qu'avec de l'éloquence. Car le syllogisme, posant toujours pour base qu'une chose est ou n'est pas, réduit dans chaque circonstance à une simple alternative la foule immense de nos impressions, tandis que l'éloquence en embrasse l'ensemble. Néanmoins, quoique Hemsterhuis ait trop souvent exprimé les vérités philosophiques avec des formes algébriques, un sentiment moral, un pur amour du beau, se fait admirer dans ses écrits. Il a senti, l'un des premiers, l'union qui existe entre l'idéalisme, ou, pour mieux dire, le libre arbitre de l'homme et la morale stoïque. Et c'est sous ce rapport surtout que la nouvelle doctrine des Allemands acquiert une grande importance. Avant même que les écrits de Kant eussent paru, Jacobi avait déjà combattu la philosophie des sensations, et plus victorieusement encore, la morale fondée sur l'intérêt. Il ne s'était point astreint exclusivement, dans sa philosophie, aux formes abstraites du raisonnement. Son analyse de l'âme humaine est pleine d'éloquence et de charme. Dans les chapitres suivants, j'examinerai la plus belle partie de ces ouvrages, celle qui tient à la morale. Mais il mérite, comme philosophe, une gloire à part. Plus instruit que personne dans l'histoire de la philosophie ancienne et moderne, il a consacré ses études à l'appui des vérités les plus simples. Le premier, parmi les philosophes de son temps, il a fondé notre nature intellectuelle tout entière sur le sentiment religieux. Et l'on dirait qu'il n'a si bien appris la langue des métaphysiciens et des savants que pour rendre hommage aussi, dans cette langue, à la vertu et à la divinité. Jacobi s'est montré l'adversaire de la philosophie de Kant, mais il ne l'attaque point en partisan de la philosophie des sensations.
Note. Cette philosophie a reçu généralement, en Allemagne, le nom de « philosophie empirique ». Fin de note.
Au contraire, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas s'appuyer assez sur la religion, considérée comme la seule philosophie possible dans les vérités au-delà de l'expérience. La doctrine de Kant a rencontré beaucoup d'autres adversaires en Allemagne, mais on ne l'a point attaquée sans la connaître, ou en lui opposant pour toute réponse les opinions de Locke et de Condillac. Leibniz conservait encore trop d'ascendant sur les esprits de ses compatriotes pour qu'ils ne montrassent pas du respect pour toute opinion analogue à la sienne. Une foule d'écrivains, pendant 10 ans, n'ont cessé de commenter les ouvrages de Kant. Mais aujourd'hui, les philosophes allemands, d'accord avec Kant sur l'activité spontanée de la pensée, ont adopté néanmoins chacun un système particulier à cet égard. En effet, qui n'a pas essayé de se comprendre soi-même selon ses forces ? Mais parce que l'homme a donné une innombrable diversité d'explications de son être, s'ensuit-il que cet examen philosophique soit inutile ? Non, sans doute. Cette diversité même est la preuve de l'intérêt qu'un tel examen doit inspirer. On dirait de nos jours qu'on voudrait en finir avec la nature morale et lui solder son compte en une fois pour n'en plus entendre parler. Les uns déclarent que la langue a été fixée tel jour de tel mois, et que depuis ce moment, l'introduction d'un mot nouveau serait une barbarie. D'autres affirment que les règles dramatiques ont été définitivement arrêtées dans telle année, et que le génie qui voudrait maintenant y changer quelque chose a tort de n'être pas né avant cette année sans appel, où l'on a terminé toutes les discussions littéraires passées, présentes et futures. Enfin, dans la métaphysique surtout, l'on a décidé que depuis Condillac, on ne peut faire un pas de plus sans s'égarer. Les progrès sont encore permis aux sciences physiques, parce qu'on ne peut les leur nier. Mais dans la carrière philosophique et littéraire, on voudrait obliger l'esprit humain à courir sans cesse la bague de la vanité autour du même cercle. Ce n'est point simplifier le système de l'univers que de s'en tenir à cette philosophie expérimentale, qui présente un genre d'évidence faux dans le principe, quoique spécieux dans la forme. En considérant comme non existant tout ce qui dépasse les lumières des sensations, on peut mettre aisément beaucoup de clarté dans un système dont on trace soi-même les limites. C'est un travail qui dépend de celui qui le fait. Mais tout ce qui est au-delà de ces limites en existe-t-il moins parce qu'on le compte pour rien ? L'incomplète vérité de la philosophie spéculative approche bien plus de l'essence même des choses que cette lucidité apparente qui tient à l'art d'écarter les difficultés d'un certain ordre. Quand on lit dans les ouvrages philosophiques du dernier siècle ces phrases si souvent répétées « Il n'y a que cela de vrai, tout le reste est chimère », on se rappelle cette histoire connue d'un acteur français qui, devant se battre avec un homme beaucoup plus gros que lui, proposa de tirer sur le corps de son adversaire une ligne au-delà de laquelle les coups ne compteraient plus. Au-delà de cette ligne, cependant, comme en deçà, il y avait le même être qui pouvait recevoir des coups mortels. De même, ceux qui se placent au terme de leur horizon les colonnes d'Hercule ne sauraient empêcher qu'il y ait une nature par-delà la leur, où l'existence est plus vive encore que dans la sphère matérielle à laquelle on veut nous borner. Les deux philosophes les plus célèbres qui aient succédé à Kant sont Fichte et Schelling. Ils prétendirent aussi simplifier son système. Mais c'était en mettant à sa place une philosophie plus transcendante encore que la sienne qu'ils se flattèrent d'y parvenir. Kant avait séparé d'une main ferme l'empire de l'âme et celui des sensations. Ce dualisme philosophique était fatigant pour les esprits qui aiment à se reposer dans les idées absolues. Depuis les Grecs jusqu'à nos jours, on a souvent répété cet axiome que « tout est un ». Et les efforts des philosophes ont toujours tendu à trouver dans un seul principe, dans l'âme ou dans la nature, l'explication du monde. J'oserais le dire cependant, il me semble qu'un des titres de la philosophie de Kant à la confiance des hommes éclairés, c'est d'avoir affirmé, comme nous le sentons, qu'il existe une âme et une nature extérieure, et qu'elles agissent mutuellement l'une sur l'autre par telles ou telles lois. Je ne sais pourquoi l'on trouve plus de hauteur philosophique dans l'idée d'un seul principe, soit matériel, soit intellectuel. Un ou deux ne rend pas l'univers plus facile à comprendre, et notre sentiment s'accorde mieux avec les systèmes qui reconnaissent comme distincts le physique et le moral. Fichte et Schelling se sont partagés l'empire que Kant avait reconnu pour diviser, et chacun a voulu que sa moitié fût le tout. L'un et l'autre sont sortis de la sphère de nous-mêmes et ont voulu s'élever jusqu'à connaître le système de l'univers. Bien différents en cela de Kant, qui a mis autant de force d'esprit à montrer ce que l'esprit humain ne parviendra jamais à comprendre qu'à développer ce qu'il peut savoir. Cependant, nul philosophe, avant Fichte, n'avait poussé le système de l'idéalisme à une rigueur aussi scientifique. Il fait de l'activité de l'âme l'univers entier. Tout ce qui peut être conçu, tout ce qui peut être imaginé vient d'elle. C'est d'après ce système qu'il a été soupçonné d'incrédulité. On lui entendait dire que, dans la leçon suivante, il allait créer Dieu, et l'on était, avec raison, scandalisé de cette expression. Ce qu'elle signifiait, c'est qu'il allait montrer comment l'idée de la divinité naissait et se développait dans l'âme de l'homme.
Le mérite principal de la philosophie de Fichte,
c'est la force incroyable d'attention qu'elle suppose. Car il ne se contente pas de tout rapporter à l'existence intérieure de l'homme, au « moi » qui sert de base à tout. Mais il distingue encore dans ce « moi » celui qui est passager et celui qui est durable. En effet, quand on réfléchit sur les opérations de l'entendement, on croit assister soi-même à sa pensée. On croit l'avoir passée comme l'onde, tandis que la portion de soi qui la contemple est immuable. Il arrive souvent à ceux qui réunissent un caractère passionné à un esprit observateur de se regarder souffrir et de sentir en eux-mêmes un être supérieur à sa propre peine, qui la voit et tour à tour la blâme ou la plaint. Il s'opère des changements continuels en nous, par les circonstances extérieures de notre vie, et néanmoins nous avons toujours le sentiment de notre identité. Qu'est-ce donc qui atteste cette identité si ce n'est le « moi », toujours le même, qui voit passer devant son tribunal le « moi » modifié par les impressions extérieures? C'est à cette âme inébranlable, témoin de l'âme mobile, que Fichte attribue le don de l'immortalité et la puissance de créer, ou, pour traduire plus exactement, de rayonner en elle-même l'image de l'univers. Ce système, qui fait tout reposer sur le sommet de notre existence et place la pyramide sur la pointe, est singulièrement difficile à suivre. Il dépouille les idées des couleurs qui servent si bien à les faire comprendre. Et les beaux-arts, la poésie, la contemplation de la nature disparaissent dans ces abstractions sans mélange d'imagination ni de sensibilité. Fichte ne considère le monde extérieur que comme une borne de notre existence, sur laquelle la pensée travaille. Dans son système, cette borne est créée par l'âme elle-même, dont l'activité constante s'exerce sur le tissu qu'elle a formé. Ce que Fichte a écrit sur le moi métaphysique ressemble un peu au réveil de la statue de Pygmalion qui, touchant alternativement elle-même et la pierre sur laquelle elle était placée, dit tour à tour « c'est moi et ce n'est pas moi ». Et quand, en prenant la main de Pygmalion, elle s'écrie « c'est encore moi », il s'agit déjà d'un sentiment qui dépasse de beaucoup la sphère des idées abstraites. L'idéalisme, dépouillé du sentiment, a néanmoins l'avantage d'exciter au plus haut degré l'activité de l'esprit. Mais la nature et l'amour perdent tout leur charme par ce système, car si les objets que nous voyons et les êtres que nous aimons ne sont rien que l'œuvre de nos idées, c'est l'homme lui-même qu'on peut considérer alors comme le grand célibataire des mondes. Il faut reconnaître cependant deux grands avantages de la doctrine de Fichte. L'un, sa morale stoïque, qui n'admet aucune excuse, car tout venant du « moi », c'est à ce moi seul à répondre de l'usage qu'il fait de sa volonté. L'autre, un exercice de la pensée tellement fort et subtil en même temps que celui qui a bien compris ce système, dût-il ne pas l'adopter, aurait acquis une puissance d'attention et une sagacité d'analyse qu'il pourrait ensuite appliquer en se jouant à tout autre genre d'étude. De quelque manière qu'on juge l'utilité de la métaphysique, on ne peut nier qu'elle ne soit la gymnastique de l'esprit. On impose aux enfants divers genres de lutte dans leurs premières années, quoiqu'ils ne soient point appelés à se battre un jour de cette manière. On peut dire avec vérité que l'étude de la métaphysique idéaliste est presque un moyen sûr de développer les facultés morales de ceux qui s'y livrent. La pensée réside, comme tout ce qui est précieux, au fond de nous-mêmes, car à la superficie, il n'y a rien que de la sottise ou de l'insipidité. Mais quand on oblige de bonne heure les hommes à creuser dans leurs réflexions, à tout voir dans leur âme, ils y puisent une force et une sincérité de jugement qui ne se perdent jamais. Fichte est dans les idées abstraites une tête mathématique comme Euler ou Lagrange. Il méprise singulièrement toutes les expressions un peu substantielles. L'existence est déjà un mot trop prononcé pour lui. L'être, le principe, l'essence sont à peine des paroles assez éthérées pour indiquer les subtiles nuances de ses opinions. On dirait qu'il craint le contact des choses réelles et qu'il tend toujours à y échapper. À force de le lire ou de s'entretenir avec lui, l'on perd la conscience de ce monde et l'on a besoin, comme les ombres que nous peint Homère, de rappeler en soi les souvenirs de la vie. Le matérialisme absorbe l'âme en la dégradant. L'idéalisme de Fichte, à force de l'exalter, la sépare de la nature. Dans l'un et l'autre extrême, le sentiment, qui est la véritable beauté de l'existence, n'a point le rang qu'il mérite. Schelling a bien plus de reconnaissance de la nature et des beaux-arts que Fichte, et son imagination, pleine de vie, ne saurait se contenter des idées abstraites. Mais, de même que Fichte, il a pour but de réduire l'existence à un seul principe. Il traite avec un profond dédain tous les philosophes qui en admettent deux. Il ne veut accorder le nom de philosophie qu'au système dans lequel tout s'enchaîne et qui explique tout. Certainement, il a raison d'affirmer que celui-là serait le meilleur. Mais où est-il ? Schelling prétend que rien n'est plus absurde que cette expression communément reçue, la philosophie de Platon, la philosophie d'Aristote. Dirait-on la géométrie de l'air, la géométrie de Lagrange ? Il n'y a qu'une philosophie, selon l'opinion de Schelling, où il n'y en a point. Certes, si l'on entendait par philosophie que le mot de l'énigme de l'univers, on pourrait dire avec vérité qu'il n'y a point de philosophie. Le système de Kant parut insuffisant à Schelling comme à Fichte, parce qu'il reconnaît deux natures, deux sources de nos idées, les objets extérieurs et les facultés de l'âme. Mais pour arriver à cette unité tant désirée, pour se débarrasser de cette double vie physique et morale, qui déplaît tant aux partisans des idées absolues, Schelling rapporte tout à la nature, tandis que Fichte fait tout ressortir de l'âme. Fichte ne voit dans la nature que l'opposé de l'âme. Elle n'est à ses yeux qu'une limite ou qu'une chaîne, dont il faut travailler sans cesse à se dégager. Le système de Schelling repose et charme davantage l'imagination. Néanmoins, il rentre nécessairement dans celui de Spinoza. Mais au lieu de faire descendre l'âme jusqu'à la matière, comme cela s'est pratiqué de nos jours, Schelling tâche d'élever la matière jusqu'à l'âme. Et quoique sa théorie dépende en entier de la nature physique, elle est cependant très idéaliste dans le fond, et plus encore dans la forme. L'idéal et le réel tiennent, dans son langage, la place de l'intelligence et de la matière, de l'imagination et de l'expérience. Et c'est dans la réunion de ces deux puissances, en une harmonie complète, que consiste, selon lui, le principe unique et absolu de l'univers organisé. Cette harmonie, dont les deux pôles et le centre sont l'image, et qui est renfermée dans le nombre 3, de tout temps si mystérieux, fournit à Schelling les applications les plus ingénieuses. Il croit la retrouver dans les beaux-arts comme dans la nature, et ses ouvrages sur les sciences physiques sont estimés même des savants qui ne considèrent que les faits et les résultats. Enfin, dans l'examen de l'âme, il cherche à démontrer comment les sensations et les conceptions intellectuelles se confondent dans le sentiment qui réunit ce qu'il y a d'involontaire et de réfléchi dans les unes et dans les autres, et contient ainsi tout le mystère de la vie. Ce qui intéresse surtout dans ces systèmes, ce sont leurs développements. La base première de la prétendue explication du monde est également vraie comme également fausse dans la plupart des théories, car toutes sont comprises dans l'immense pensée qu'elles veulent embrasser. Mais dans l'application aux choses de ce monde, ces théories sont très spirituelles et répandent souvent de grandes lumières sur plusieurs objets en particulier. Schelling s'approche beaucoup, on ne saurait le nier, des philosophes appelés panthéistes, c'est-à-dire de ceux qui accordent à la nature les attributs de la divinité. Mais ce qui le distingue, c'est l'étonnante sagacité avec laquelle il a su rallier à sa doctrine les sciences et les arts. Il instruit, il donne à penser dans chacune de ses observations. La profondeur de son esprit étonne, surtout quand il ne prétend pas l'appliquer aux secrets de l'univers. Car aucun homme ne peut atteindre à un genre de supériorité qui ne saurait exister entre des êtres de la même espèce, à quelque distance qu'ils soient l'un de l'autre. Pour conserver des idées religieuses au milieu de l'apothéose de la nature, l'école de Schelling suppose que l'individu périt en nous, mais que les qualités intimes que nous possédons rentrent dans le grand tout de la création éternelle. Cette immortalité-là ressemble terriblement à la mort. Car la mort physique elle-même n'est autre chose que la nature universelle qui se ressaisit des dons qu'elle avait faits à l'individu. Schelling tire de son système des conclusions très nobles sur la nécessité de cultiver dans notre âme les qualités immortelles, celles qui sont en relation avec l'univers, et de mépriser en nous-mêmes tout ce qui ne tient qu'à nos circonstances. Mais les affections du cœur et la conscience elle-même ne sont-elles pas attachées aux rapports de cette vie ? Nous éprouvons, dans la plupart des situations, deux mouvements tout à fait distincts. Celui qui nous unit à l'ordre général et celui qui nous ramène à nos intérêts particuliers. Le sentiment du devoir et la personnalité. Le plus noble de ces deux mouvements, c'est l'universel. Mais c'est précisément parce que nous avons un instinct conservateur de l'existence qu'il est beau de la sacrifier. C'est parce que nous sommes des êtres concentrés en nous-mêmes que notre attraction vers l'ensemble est généreuse. Enfin, c'est parce que nous subsistons individuellement et séparément que nous pouvons nous choisir et nous aimer les uns les autres. Que serait donc cette immortalité abstraite qui nous dépouillerait de nos souvenirs les plus chers comme de modifications accidentelles ? Voulez-vous, disent-ils en Allemagne, ressusciter avec toutes vos circonstances actuelles ? Renaître baron ou marquis, non, sans doute. Mais qui ne voudrait pas renaître fille et mère, et comment serait-on soi si l'on ne ressentait plus les mêmes amitiés ? Les vagues idées de réunion avec la nature détruisent à la longue l'empire de la religion sur les âmes, car la religion s'adresse à chacun de nous en particulier. La Providence nous protège dans tous les détails de notre sort, le christianisme se proportionne à tous les esprits et répond comme un confident aux besoins individuels de notre cœur. Le panthéisme, au contraire, c'est-à-dire la nature divinisée, à force d'inspirer de la religion pour tout, la disperse sur l'univers et ne la concentre point en nous-mêmes. Ce système a eu dans tous les temps beaucoup de partisans parmi les philosophes. La pensée tend toujours à se généraliser de plus en plus. Et l'on prend quelquefois pour une idée nouvelle ce travail de l'esprit qui s'en va toujours autant ses bornes. On croit parvenir à comprendre l'univers comme l'espace, en renversant toujours les barrières, en reculant les difficultés sans les résoudre. Et l'on n'approche pas davantage ainsi de l'infini. Le sentiment seul nous le révèle sans nous l'expliquer. Ce qui est vraiment admirable dans la philosophie allemande, c'est l'examen qu'elle nous fait faire de nous-mêmes. Elle remonte jusqu'à l'origine de la volonté, jusqu'à cette source inconnue du fleuve de notre vie. Et c'est là que, pénétrant dans les secrets les plus intimes de la douleur et de la foi, elle nous éclaire et nous affermit. Mais tous les systèmes qui aspirent à l'explication de l'univers ne peuvent guère être analysés clairement par aucune parole. Les mots ne sont pas propres à ce genre d'idées, et il en résulte que, pour les y faire servir, on répand sur toute chose, l'obscurité qui précéda la création, mais non la lumière qui la suivit. Les expressions scientifiques prodiguées sur un sujet auquel tout le monde croit avoir des droits révoltent l'amour-propre. Ces écrits, si difficiles à comprendre, prêtent, quelque sérieux qu'on soit, à la plaisanterie, car il y a toujours des méprises dans les ténèbres. L'on se plaît à réduire à quelques assertions principales et faciles à combattre cette foule de nuances et de restrictions qui paraissent toutes sacrées à l'auteur, mais que bientôt les profanes oublient ou confondent. Les orientaux ont été de tout temps idéalistes, et l'Asie ne ressemble en rien au midi de l'Europe. L'excès de la chaleur porte dans l'Orient à la contemplation, comme l'excès du froid dans le Nord. Les systèmes religieux de l'Inde sont très mélancoliques et très spiritualistes, tandis que les peuples du midi de l'Europe ont toujours eu du penchant pour un paganisme assez matériel. Les savants anglais qui ont voyagé dans l'Inde ont fait de profondes recherches sur l'Asie, et des Allemands qui n'avaient pas, comme les princes de la mer, les occasions de s'instruire par leurs propres yeux, sont arrivés, avec l'unique secours de l'étude, à des découvertes très intéressantes sur la religion, la littérature et les langues des nations asiatiques. Ils sont portés à croire, d'après plusieurs indices, que des lumières surnaturelles ont éclairé jadis les peuples de ces contrées et qu'il en est resté des traces ineffaçables. La philosophie des Indiens ne peut être bien comprise que par les idéalistes allemands. Les rapports d'opinion les aident à la concevoir. Frédéric Schlegel, non content de savoir presque toutes les langues de l'Europe, a consacré des travaux inouïs à la connaissance de ce pays, berceau du monde. L'ouvrage qu'il vient de publier sur la langue et la philosophie des Indiens contient des vues profondes et des connaissances positives qui doivent fixer l'attention des hommes éclairés de l'Europe. Il croit, et plusieurs philosophes, au nombre desquels il faut compter Bailly, ont soutenu la même opinion, qu'un peuple primitif a occupé quelques parties de la Terre, et particulièrement l'Asie, dans une époque antérieure à tous les documents de l'histoire. Frédéric Schlegel trouve des traces de ce peuple dans la culture intellectuelle des nations et dans la formation des langues. Il remarque une ressemblance extraordinaire entre les idées principales et même les mots qui les expriment chez plusieurs peuples du monde, alors même que, d'après ce que nous connaissons de l'histoire, ils n'ont jamais eu de rapport entre eux. Frédéric Schlegel n'admet point dans ses écrits la supposition assez généralement reçue que les hommes ont commencé par l'état sauvage et que les besoins mutuels ont formé les langues par degrés. C'est donner une origine bien grossière au développement de l'esprit et de l'âme que de l'attribuer ainsi à notre nature animale, et la raison combat cette hypothèse que l'imagination repousse. On ne conçoit point par quelle gradation il serait possible d'arriver du cri sauvage à la perfection de la langue grecque. L'on dirait que dans les progrès nécessaires pour parcourir cette distance infinie, il faudrait que chaque pas franchît un abîme. Nous voyons de nos jours que les sauvages ne se civilisent jamais d'eux-mêmes, et que ce sont les nations voisines qui leur enseignent avec grande peine ce qu'ils ignorent. On est donc bien tenté de croire que le peuple primitif a été l'instituteur du genre humain, et ce peuple, qui l'a formé, si ce n'est une révélation. Toutes les nations ont exprimé de tout temps des regrets sur la perte d'un état heureux qui précédait l'époque où elles se trouvaient. D'où vient cette idée si généralement répandue? Dira-t-on que c'est une erreur? Les erreurs universelles sont toujours fondées sur quelques vérités altérées, défigurées peut-être, mais qui avaient pour base des faits cachés dans la nuit des temps ou quelques forces mystérieuses de la nature. Ceux qui attribuent la civilisation du genre humain aux besoins physiques qui ont réuni les hommes entre eux expliqueront difficilement comment il arrive que la culture morale des peuples les plus anciens et plus poétiques, plus favorables aux beaux-arts, plus noblement inutiles enfin, sous les rapports matériels, que ne le sont les raffinements de la civilisation moderne. La philosophie des Indiens est idéaliste et leur religion mystique. Ce n'est certes pas le besoin de maintenir l'ordre dans la société qui a donné naissance à cette philosophie ni à cette religion. La poésie, presque partout, a précédé la prose, et l'introduction des maîtres, du rythme, de l'harmonie, est antérieure à la précision rigoureuse et par conséquent à l'utile emploi des langues. L'astronomie n'a pas été étudiée seulement pour servir à l'agriculture. mais les Chaldéens, les Égyptiens, etc., ont poussé leurs recherches fort au-delà des avantages pratiques qu'on pouvait en retirer. Et l'on croit voir l'amour du ciel et le culte du temps dans ces observations si profondes et si exactes sur les divisions de l'année, le cours des astres et les périodes de leur jonction. Les rois, chez les Chinois, étaient les premiers astronomes de leur pays. Ils passaient les nuits à contempler la marche des étoiles, et leur dignité royale consistait dans ces belles connaissances et dans ces occupations désintéressées qui les élevaient au-dessus du vulgaire. Le magnifique système qui donne à la civilisation pour origine une révélation religieuse est appuyé par une érudition dont les partisans des opinions matérialistes sont rarement capables. C'est être déjà presque idéaliste que de se vouer entièrement à l'étude. Les Allemands, accoutumés à réfléchir profondément et solitairement, pénètrent si avant dans la vérité qu'il faut être, ce me semble, un ignorant ou un fat pour dédaigner aucun de leurs écrits avant de s'en être longtemps occupé. Il y avait autrefois beaucoup d'erreurs et de superstitions qui tenaient au manque de connaissances. Mais quand, avec les lumières de notre temps et d'immenses travaux individuels, on énonce des opinions hors du cercle des expériences communes, il faut s'en réjouir pour l'espèce humaine, car son trésor actuel est assez pauvre, du moins si l'on en juge par l'usage qu'elle en fait. En lisant le compte que je viens de rendre des idées principales de quelques philosophes allemands, leurs partisans, d'une part, trouveront, avec raison, que j'ai indiqué bien superficiellement des recherches très importantes. Et de l'autre, les gens du monde se demanderont à quoi sert tout cela. Mais à quoi servent l'Apollon du Belvédère, les tableaux de Raphaël, les tragédies de Racine? À quoi sert tout ce qui est beau, si ce n'est à l'âme? Il en est de même de la philosophie. Elle est la beauté de la pensée. Elle atteste la dignité de l'homme, qui peut s'occuper de l'éternel et de l'invisible, quoique tout ce qu'il y a de grossier dans sa nature l'en éloigne. Je pourrais encore citer beaucoup d'autres noms, justement honorés dans la carrière de la philosophie. Mais il me semble que cette esquisse, quelque imparfaite qu'elle soit, suffit pour servir d'introduction à l'examen de l'influence que la philosophie transcendante des Allemands à exercer sur le développement de l'esprit et sur le caractère et la moralité de la nation où règne cette philosophie. Et c'est là surtout le but que je me suis proposé.
Fin de la section 60. Section 61 de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann.
Chapitre 8. Influence de la nouvelle philosophie allemande sur le développement de l'esprit. L'attention est peut-être de toutes les facultés de l'esprit humain celle qui a le plus de pouvoir. Et l'on ne saurait nier que la métaphysique idéaliste ne la fortifie d'une manière étonnante. M. de Buffon prétendait que le génie pouvait s'acquérir par la patience. C'était trop dire. Mais cet hommage rendu à l'attention, sous le nom de la patience, honore beaucoup un homme d'une imagination aussi brillante. Les idées abstraites exigent déjà un grand effort de méditation. Mais quand on y joint l'observation la plus exacte et la plus persévérante des actes intérieurs de la volonté, toute la force de l'intelligence y est employée. La subtilité de l'esprit est un grand défaut dans les affaires de ce monde, mais certes les Allemands n'en sont pas soupçonnés. La subtilité philosophique qui nous fait démêler les moindres fils de nos pensées est précisément ce qui doit porter le plus loin le génie, car une réflexion dont il résulterait peut-être les plus sublimes inventions, les plus étonnantes découvertes, passe en nous-mêmes inaperçue si nous n'avons pas pris l'habitude d'examiner avec sagacité les conséquences et les liaisons des idées les plus éloignées en apparence. En Allemagne, un homme supérieur se borne rarement à une seule carrière. Goethe fait des découvertes dans les sciences. Schelling est un excellent littérateur. Frédéric Schlegel, un poète plein d'originalité. On ne saurait peut-être réunir un grand nombre de talents divers, mais la vue de l'entendement doit tout embrasser. La nouvelle philosophie allemande est nécessairement plus favorable qu'aucune autre à l'étendue de l'esprit. car, rapportant tout au foyer de l'âme et considérant le monde lui-même comme régi par des lois dont le type est en nous, elle ne saurait admettre le préjugé qui destine chaque homme d'une manière exclusive à telle ou telle branche d'étude. Les philosophes idéalistes croient qu'un art, qu'une science, qu'une partie quelconque ne saurait être comprise sans des connaissances universelles, et que, depuis le moindre phénomène jusqu'au plus grand, rien ne peut être savamment examiné ou poétiquement dépeint sans cette hauteur d'esprit qui fait voir l'ensemble en décrivant les détails. Montesquieu dit que « l'esprit consiste à connaître la ressemblance des choses diverses et la différence des choses semblables ». S'il pouvait exister une théorie qui apprît à devenir un homme d'esprit, ce serait celle de l'entendement telle que les Allemands la conçoivent. Il n'en est pas de plus favorable aux rapprochements ingénieux entre les objets extérieurs et les facultés de l'esprit. Ce sont les divers rayons d'un même centre. La plupart des axiomes physiques correspondent à des vérités morales, et la philosophie universelle présente de mille manières la nature toujours une et toujours variée, qui se réfléchit tout entière dans chacun de ses ouvrages, et fait porter au brin d'herbe, comme au cèdre, l'empreinte de l'univers. Cette philosophie donne un attrait singulier pour tous les genres d'études. Les découvertes qu'on fait en soi-même sont toujours intéressantes, mais s'il est vrai qu'elles doivent nous éclairer sur les mystères même du monde créé à notre image, quelle curiosité n'inspire-t-elle pas ? L'entretien d'un philosophe allemand, tel que ceux que j'ai nommés, rappelle les dialogues de Platon. Et quand vous interrogez un de ces hommes sur un sujet quelconque, il y répand tant de lumière qu'en l'écoutant, vous croyez penser pour la première fois, si penser est, comme le dit Spinoza, s'identifier avec la nature par l'intelligence et devenir un avec elle. Il circule en Allemagne depuis quelques années une telle quantité d'idées neuves sur les sujets littéraires et philosophiques qu'un étranger pourrait très bien prendre pour un génie supérieur celui qui ne ferait que répéter ses idées. Il m'est quelquefois arrivé de croire un esprit prodigieux à des hommes d'ailleurs assez communs, seulement parce qu'ils s'étaient familiarisés avec les systèmes idéalistes, aurore d'une vie nouvelle. Les défauts qu'on reproche d'ordinaire aux Allemands dans la conversation, la lenteur et la pédanterie, se remarquent infiniment moins dans les disciples de l'école moderne. Les personnes du premier rang, en Allemagne, se sont formées pour la plupart d'après les bonnes manières françaises. Mais il s'établit maintenant parmi les philosophes, hommes de lettres, une éducation qui est aussi de bon goût, quoique dans un tout autre genre. On y considère la véritable élégance comme inséparable de l'imagination poétique et de l'attrait pour les beaux-arts, et la politesse comme fondée sur la connaissance et l'appréciation des talents et du mérite. On ne saurait nier cependant que les nouveaux systèmes philosophiques et littéraires n'aient inspiré à leurs partisans un grand mépris pour ceux qui ne les comprennent pas. La plaisanterie française veut toujours humilier par le ridicule. Sa tactique est d'éviter l'idée pour attaquer la personne et le fond pour se moquer de la forme. Les Allemands de la nouvelle école considèrent l'ignorance et la frivolité comme les maladies d'une enfance prolongée. Ils ne s'en sont pas tenus à combattre les étrangers. Ils s'attaquent aussi eux-mêmes les uns les autres avec amertume. Et l'on dirait, à les entendre, qu'un degré de plus en fait d'abstraction ou de profondeur donne le droit de traiter en esprit vulgaire et borné quiconque ne voudrait pas ou ne pourrait pas y atteindre. Quand les obstacles ont irrité les esprits, l'exagération s'est mêlée à cette révolution philosophique, d'ailleurs si salutaire. Les Allemands de la nouvelle école pénètrent avec le flambeau du génie dans l'intérieur de l'âme. Mais quand il s'agit de faire entrer leurs idées dans la tête des autres, ils en connaissent mal les moyens. Ils se mettent à dédaigner parce qu'ils ignorent non la vérité, mais la manière de la dire. Le dédain, excepté pour le vice, indique presque toujours une borne dans l'esprit. Car, avec plus d'esprit encore, on se serait fait comprendre même des esprits vulgaires, ou du moins on l'aurait essayé de bonne foi. Le talent de s'exprimer avec méthode et clarté est assez rare en Allemagne. Les études spéculatives ne le donnent pas. Il faut se placer, pour ainsi dire, en dehors de ses propres pensées, pour juger de la forme qu'on doit leur donner. La philosophie fait connaître l'homme plutôt que les hommes. C'est l'habitude de la société qui seule nous apprend quels sont les rapports de notre esprit avec celui des autres. La candeur d'abord et l'orgueil ensuite portent les philosophes sincères et sérieux à s'indigner contre ceux qui ne pensent pas ou ne sentent pas comme eux. Les Allemands recherchent le vrai consciencieusement, mais ils ont un esprit de secte très ardent en faveur de la doctrine qu'ils adoptent, car tout se change en passion dans le cœur de l'homme. Cependant, malgré les diversités d'opinions qui forment en Allemagne différentes écoles opposées l'une à l'autre, elles tendent également, pour la plupart, à développer l'activité de l'âme. Aussi n'est-il point de pays où chaque homme tire plus de parti de lui-même, au moins sous le rapport des travaux intellectuels.
Fin de la section 61.